Maria Tsino, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à partager un café autour de votre ouvrage « Femmes et pouvoir sous la Ve République ». Alors, vous êtes docteur en sciences politiques, directrice de recherche CNRS au CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po, et vous êtes spécialiste des rapports entre genre et politique et genre et citoyenneté. Alors, comme son titre l'indique, votre ouvrage retrace le long et lent processus d'inclusion des femmes dans la vie politique française sous la Ve République. Et vous étudiez les pas en avant, mais aussi les pas en arrière qu'a eu la place des femmes dans ce régime un peu hybride à cause de choix politiques et de dispositions institutionnelles. Alors, première question, dans votre ouvrage, vous montrez que, contrairement à ce qu'on aurait pu penser de par l'histoire, malgré le fait qu'il ait accordé le droit de vote aux femmes, le général de Gaulle a été assez réticent à leur accorder une vraie place de participation politique. À quoi est due cette réticence ?
Alors bonjour et merci de votre invitation. Alors écoutez, il y a deux choses effectivement. Il y a comme pour expliquer effectivement la difficile entrée des femmes sous la Ve République. Il y a des facteurs institutionnels, vous les avez évoqués et puis on pourra y revenir ultérieurement. Mais il y a aussi des raisons dues à la personnalité du général de Gaulle et à ses valeurs. Hein. Il faut rappeler que c'est quand même un homme qui est né au 19e siècle dans une famille conservatrice, et lui-même voyait les femmes, surtout dans le rôle d'épouse et de mère, beaucoup plus que dans le rôle de citoyenne engagée et active. Hein. Il voulait bien que les femmes votent, ça le dérangeait d'autant moins que les femmes, à cette époque, votaient assez à droite, en tout cas beaucoup pour le général de Gaulle, mais quand elle leur assurait une place en tant qu'actrice de premier rang en politique, il était beaucoup plus réservé et on peut constater que sous ces deux mandats, les femmes ont été extrêmement minoritaires, enfin c'était même l'exception, en tant que ministre. Et à plusieurs reprises, d'ailleurs, il a été question de désigner une femme dans la haute fonction publique et il n'a pas donné suite, car pour lui, une femme en politique, c'était un petit peu la perturbation du corps politique. Hein. Donc, vraiment, il y a eu, si vous voulez, dans le livre, je dis comme ça, une discrimination à l'embauche de la maison élyséenne pour des valeurs qui tenaient à celles du général de Gaulle.
Alors justement, on voit que même après le général de Gaulle, lorsqu'on accorde des places aux femmes, c'est souvent des places inférieures. Vous parlez de la parité quantitative et qualitative. Pourquoi, quand on accorde une place à une femme, par principe, c'est plutôt un secrétariat d'État et de préférence à la famille ou...
Alors effectivement, la première rupture, elle intervient sous Valéry Giscard d'Estaing. Il avait perçu que les mouvements de femmes de la décennie 70 étaient véritablement un tremblement de terre, un signe. Et il a voulu donc nommer des femmes à la barre, hein, à la différence du général de Gaulle. Il s'inscrit en rupture par rapport effectivement à cette période. Mais en revanche, il fait entrer beaucoup de femmes à des postes seconds, secrétariat d'État, comme vous l'avez rappelé, et souvent dans des rôles traditionnels dévolus aux femmes, c'est-à-dire le social, éventuellement le culturel, mais évidemment aucun poste régalien. Et la seule femme qui aura un rôle politique éminent, je dirais, c'est Simone Veil, puisqu'elle a un ministère à part entière, hein, de la santé. Et d'ailleurs, comme vous le savez, elle a été nommée pour résoudre un problème politique à la fois très important et délicat politiquement, c'est légaliser l'IVG. Hein, et c'est pour ça qu'elle est rentrée. Et elle a d'ailleurs fort bien réussi dans ce rôle, acquérant par là même une popularité très forte qui ne se démentira pas pendant des années.
Alors, dans votre ouvrage, on a un peu le sentiment, malgré le rôle de Valéry Giscard d'Estaing, que ce sont quand même plus souvent des gouvernements de gauche des gouvernements de gauche qui ont fait progresser le rôle de la femme en politique. Est-ce que la cause de la femme est une cause de gauche? Est-ce qu'il y a plus de réticence à droite?
Ah oui, tout à fait, ça c'est incontestable. Alors, avec l'exception notable quand même de Valéry Giscard d'Estaing, hein, qui était quand même à droite et qui a fait avancer la cause des femmes, non seulement en les promouvant au gouvernement, mais aussi en réalisant un certain nombre d'avancées juridiques. Hein. Il y en a donc plusieurs. Mais pour le reste, c'est toujours la gauche qui a été pionnière dans l'entrée des femmes en politique. Hein. Et Mitterrand, quand la gauche arrive au pouvoir en 81, il fait rentrer de nombreuses femmes et surtout sous la deuxième mandature a des rôles politiquement importants. Et effectivement, on peut dire que l'égalité des sexes, que ce soit en politique ou dans d'autres domaines, est davantage portée par les valeurs de gauche que celles de droite. Hein. Et il faut attendre ensuite le quinquennat de Nicolas Sarkozy pour que, à la suite d'ailleurs d'une campagne qui était, je dirais, une campagne paritaire et qui l'a opposée au second tour à Ségolène Royal, donc, il s'est rendu compte qu'il fallait aussi axer sa campagne sur l'égalité homme-femme en politique. Il avait fait d'ailleurs de nombreuses promesses durant sa campagne qui n'ont pas été toutes tenues, puisqu'il avait promis un gouvernement paritaire qui n'a pas eu lieu. Il avait promis un ministère des droits des femmes à part entière qui n'a pas vu le jour. Il n'empêche que dans les premiers gouvernements de son quinquennat, le pourcentage de femmes tourne autour de 35%. Et en outre, il y avait le quantitatif, mais il y avait aussi le qualitatif, puisque des femmes sont nommées à des ministères dits régaliens, c'est-à-dire la justice, hein, où là, il promeut Rachida Dati avec la symbolique qui derrière, à la fois de représentation des diversités et puis également de symbole de l'ascenseur républicain, puisque Rachida Dati avait processus. Donc, si vous voulez, et puis après, il a continué, puisqu'il y a eu l'économie et les finances, il y a eu l'intérieur, il y a eu brièvement les affaires étrangères, donc attribuées à Alliot-Marie. Donc, incontestablement, il a voulu faire du gouvernement, Nicolas Sarkozy, une vitrine de représentativité, hein, non seulement d'ailleurs pour les femmes, mais aussi pour les représentants de ce qu'on nomme la diversité. J'ajoute quand même que, au fil du temps, cette fonction de représentativité attribuée au gouvernement est en perte de vitesse, puisque actuellement, à la suite des divers remaniements du gouvernement Fillon, le pourcentage des femmes est tombé en dessous de 30%, on en est à 27%, et en outre, il n'y a plus aucun ministère régalien attribué aux femmes, puisque Christine Lagarde est partie au FMI, et il y a seulement Valérie Pécresse, qui est ministre du budget, mais voilà. Donc, je dirais que là, le rôle des femmes est en régression, très net.
On a beaucoup parlé d'hommes, de personnalités politiques dans cette première partie. Vous rappelez également que, dans votre ouvrage « Femmes et pouvoirs sous la Ve République », que l'intégration insuffisante des femmes dans les institutions sont également dues à d'autres facteurs, comme notamment le mode de scrutin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière le système de la Ve République ferme certaines portes aux femmes?
Oui, alors on peut mettre l'accent sur deux facteurs, ou même trois. Alors, le mode de scrutin uninominal, hein, qui est pour les députés majoritaires à deux tours, hein, alors il est valable pour l'élection des députés, mais aussi pour la moitié des sénateurs, hein, dans les grands départements, à partir de 4 sièges. Et puis, il est en vigueur également pour l'élection des conseillers généraux, donc ils sont les représentants des départements. Et ce mode de scrutin, déjà, est un mode de scrutin qui favorise les notables en place, hein, et, je dirais, la reconduction des mêmes. Parce que quand un parti désigne ses candidats, choisit les investitures, il se dit quel est le candidat le plus à même de gagner. C'est le plus connu. Or, qui est le plus connu? Ben, inévitablement, c'est précisément un notable politique. C'est le maire d'une des villes de la circonscription. C'est le conseiller général d'un des cantons de la circonscription législative. Et, évidemment, qui sont ces individus? Ce sont des hommes, enfin, surtout surtout au début de la Ve République, c'était exclusivement des hommes. Et en outre, c'est un système qui donne la prime au sortant, car le sortant est aussi connu par définition. Donc, si vous voulez, c'est un système en soi qui est conservateur. Et j'ajoute que la deuxième spécificité française, parce que le mode de scrutin uninominal, hein, avec le Royaume-Uni, la France est un des rares pays européens à l'adopter. Tous les autres ont des scrutins de liste proportionnels. En France, ce mode de scrutin est en outre associé à la possibilité de cumuler mandats et fonctions. Hein. Alors, il y a eu deux lois qui limitent ces cumuls. Néanmoins, à l'heure actuelle, on peut avoir deux grands cumuls. Et ça s'explique pourquoi une des figures centrales de la vie politique française, c'est le député-maire ou le sénateur-maire. Hein. Et évidemment, parmi ces cumulards, ce sont surtout des hommes et les femmes. Et ça explique pourquoi les femmes doivent toujours frapper à la porte du Parlement, hein, puisque il y a toujours plus de 80% des députés qui sont des hommes. Alors, vous savez qu'il y a eu on a voté un dispositif dit de parité, et que au terme de ce dispositif, on a pour les élections législatives, on a dit aux partis, vous avez la liberté de ne pas présenter 50% de femmes, mais si vous le faites, vous aurez des retenues sur les dotations financières, puisque maintenant les partis sont financés par l'État. Et l'expérience a montré que les partis politiques ont préféré évidemment payer ce qu'on appelle l'impôt parité plutôt que d'ouvrir leurs investitures aux femmes, c'est-à-dire qu'en règle générale, ils ont reconduit les sortants.
Alors justement, vous en parlez dans votre ouvrage. Est-ce que vous pensez que la disposition qui est assez justement en vogue en ce moment de non-cumul des mandats, s'il y avait une disposition législative pour le non-cumul des mandats, ça pourrait ouvrir la porte beaucoup plus aux femmes ?
Tout à fait. Et bon, c'est un peu l'analyse que je fais de l'échec du dispositif paritaire. C'est de ne pas avoir été de pair précisément avec une interdiction radicale du cumul, puisque c'est les lois de 2000 qui ont été votées à l'initiative de Lionel Jospin quand il était Premier ministre à partir de 1997. Mais c'est un petit peu... grâce à l'opposition de droite du Sénat, il n'a pas eu gain de cause totalement. Et à l'issue de la législation, donc les individus peuvent toujours avoir deux grands cumuls. Alors ça va peut-être changer, puisque comme vous le savez, à l'initiative de Martine Aubry, première secrétaire du PS, elle a fait voter en 2009 une nouvelle restriction du cumul, au terme duquel un député ou un sénateur ne pourrait plus avoir de fonctions électives, c'est-à-dire ce serait la fin des députés-maires et des sénateurs-maires. Hein. Donc ça a été voté par le Parti socialiste, donc si le Parti socialiste arrive au pouvoir à l'issue de la présidentielle, on peut espérer que là ça va changer et que ça va créer un appel d'air pour tous les outsiders, hein, pas seulement les femmes mais aussi les jeunes, éventuellement les membres des catégories populaires, pour renouveler une classe politique qui est quand même terriblement sclérosée et qui reconduit les mêmes au pouvoir.
Alors c'est justement quelque chose que vous mettez beaucoup en valeur. Est-ce que l'entrée des femmes permettrait d'avoir une plus grande démocratisation de la vie politique, parce qu'elles viendraient peut-être de milieux un peu différents de justement ceux qui sont traditionnellement élus, qu'elles auraient une approche un peu différente de la politique ?
Alors on peut l'espérer, ce n'est pas totalement garanti dans la mesure où en France, comme dans de nombreux pays, il y a une grande professionnalisation de la politique et qu'il y a toujours un écart très grand entre évidemment ce que sont les élites et ce qu'est le peuple dans sa globalité, hein, que ce soit au niveau des ressources sociales, au niveau des ressources scolaires et universitaires ou au niveau des ressources politiques. Hein. Donc on peut parler de profession politique, même si effectivement avoir un mandat c'est pas une profession, hein, c'est pas précisément à vie. Néanmoins, il y a quand même des règles et il faut être socialisé aux règles. Il n'empêche que on constate au fur et à mesure là de l'entrée des femmes dans les assemblées locales, eh bien on a constaté, puisque là au niveau des régionales, hein, ou là, le scrutin de liste, hein, les femmes sont 48%. Donc il y a eu une entrée en masse. Et on peut quand même constater qu'il y a eu rajeunissement de ces assemblées et il y a eu aussi un début de démocratisation dans la mesure où des professions qui étaient jusque-là peu représentées, à savoir par exemple assistante sociale, infirmière et même femmes n'exerçant pas d'activité professionnelle, étaient rentrées dans ces assemblées. Donc néanmoins, il faut quand même constater que c'est un début d'ouverture. Alors bon, pour le Parlement, on ne sait pas puisque ce n'est pas encore advenu, mais on peut quand même supposer que ça ouvrirait un certain nombre de professions à l'exercice de la fonction parlementaire.
Et pour l'heure, la représentation des femmes est plutôt faible. Après la traversée donc, du désert sous Charles de Gaulle, Pompidou, le dégel giscardien, il y a le tournant mitterrandien. Donc des femmes diplômées vont être à ce moment-là promues à des postes clés. Pourtant, en 1993, on trouve 6% de femmes à l'Assemblée nationale, un anti-record, comme vous dites. Nous sommes dans la dernière place européenne à ce moment-là. Aujourd'hui, on atteint difficilement 18-19%. Donc, en dépit de ce scrutin majoritaire à deux tours, qui favorise les hommes incontestablement, comme vous l'avez rappelé, la mauvaise ou la non-représentation des femmes n'est-elle pas avant tout un problème culturel français ?
Culturel, si on l'entend au sens des mœurs partisanes, si vous voulez, hein, et des mœurs effectivement qui renverraient à l'histoire longue, hein, puisque on peut rappeler que il y avait sous la royauté la fameuse loi d'Issali qui interdisait aux femmes de régner, elles ne pouvaient être que régentes, et un des premiers actes des révolutionnaires en octobre 1789, hein, c'est de prolonger la loi salique. Hein. Il y avait quand même des choses sûrement plus urgentes à faire. Néanmoins, bon, ils font ça. Ensuite, bon, après, il n'y a plus de royauté et les révolutionnaires interdisent aux femmes tout droit à la citoyenneté politique. Hein. Ils leur octroient une citoyenneté civile, hein, mais pas de citoyenneté politique. Et de fait, on est obligé de constater que la France, qui a été la première à établir le suffrage universel masculin en 1848, a été parmi les dernières nations européennes, avec l'Italie et la Belgique, à octroyer des droits politiques aux femmes. Et je dis octroyer en ce sens que ce n'est pas le Parlement qui a reconnu ces droits, mais c'est une ordonnance du gouvernement provisoire qui a donc finalement accordé des droits aux femmes. Et il a fallu quand même attendre le milieu du XXe siècle. Donc c'est bien, si vous voulez, en ce sens-là, c'est culturellement une réticence à faire des femmes les égales politiques des hommes. Et effectivement, eh bien, les partis politiques n'ont été que trop bien socialisés à cette culture, hein, et ils ont repris à leur compte cette pratique, car il y a à l'évidence un divorce entre l'émancipation économique, juridique des Françaises et puis le rôle que les partis politiques ont bien voulu leur attribuer, puisque je rappelle que dans une démocratie, eh ben effectivement, le fonctionnement des institutions, la sélection du personnel politique est opéré par les partis, et ça aurait dû être aux partis politiques précisément de faire en sorte qu'ils laissent les femmes et les jeunes exercer un rôle plus grand. Alors je rappelle quand même que sous la 4e République, à l'époque où le Parti communiste avait une très grande place et où fonctionnait le scrutin de liste à la proportionnelle, eh bien le Parti communiste en réalité faisait des quotas sans le dire, hein, c'est-à-dire il faisait en sorte que parmi les investitures et parmi les élus, il y ait un certain pourcentage de jeunes, de femmes, d'ouvriers, etc., pour que la représentation émanant du Parti communiste reflète un petit peu la diversité sociale. Mais malheureusement, ce rôle n'a pas été repris par ensuite le Parti socialiste, hein, et que, bon, il a un peu fonctionné, le Parti socialiste, comme un parti de notables, d'élus, ça a fonctionné entre hommes.
Alors c'est justement ce que je trouve particulièrement frappant dans votre ouvrage, c'est que vous insistez beaucoup sur le fait qu'en fait c'est plus les militants, les responsables politiques qui sont bloqués sur le fait de donner de la place aux femmes, alors que si on regarde les sondages ou même le comportement des gens, ils seraient plutôt prêts à ce que les femmes aient plus de place. Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur que ça les remette en cause, ou parce qu'on peut se dire peut-être que maintenant il y aurait une nouvelle génération de militants un peu plus sociabilisés à la question de la place de la femme et qui donc laisserait un peu plus de marge, ou ça ne va pas évoluer?
Ben, je dirais que le milieu politique est un milieu particulièrement dur, hein, particulièrement compétitif. Donc déjà, la lutte pour le pouvoir entre hommes est déjà très difficile. Et évidemment, ils ont tendance à voir dans les femmes et dans la progression, l'entrée des femmes, des concurrentes et des concurrentes qu'ils considèrent comme illégitimes. Ça explique, si vous voulez, que finalement, la misogynie des élites politiques soit plus forte que celle de l'homme de la rue, parce que l'homme de la rue n'a rien à perdre. En revanche, les responsables et les dirigeants politiques, eh bien, ils voient une menace contre leur propre pouvoir. Hein. Je crois que ça s'explique comme ça, une lutte pour le pouvoir et le fait que, voilà, il y a déjà assez de concurrence. Pourquoi élargir le cercle, si vous voulez, hein.
Alors justement, dernière question, vous concluez votre ouvrage en indiquant que c'est aux femmes de prendre leur place en politique. Et pourtant, tout le long de l'ouvrage, on a un peu l'impression qu'on dépend un peu du bon vouloir justement des hommes, d'un président ou de membres du bureau national qui acceptent que des femmes aient une place. Qu'est-ce que peuvent faire les femmes en tant que telles pour justement s'emparer de ce pouvoir et devenir un peu l'égale des hommes ?
Je dirais qu'au niveau stratégique, il y a deux lignes de force. Et les femmes doivent faire pression de l'extérieur sur les partis politiques, hein, et donc militer dans des associations. Vous voyez, on est déjà en pré-campagne présidentielle, et le thème de l'égalité homme-femme, notamment l'égalité salariale, la violence faite aux femmes, apparaît comme des revendications très fortes, agitées par un certain nombre d'associations. Donc ça, c'est la première direction. Et l'autre direction, c'est évidemment d'investir les partis politiques davantage qu'elles ne l'ont fait que par le passé. Beaucoup de femmes hier étaient un petit peu découragées précisément par le comportement des partis politiques, si peu accueillants envers elles, et par conséquent elles préféraient s'investir dans d'autres lieux, et par exemple les associations. Mais ça ne suffit pas, donc il faut faire de l'entrisme dans les partis et gravir les échelons, se faire élire, investir surtout les postes de direction des partis politiques, investir les lieux stratégiques comme les commissions électorales, les commissions d'investiture où se décident, où se font les décisions. Et sinon, rien ne changera. Et je crois que les femmes doivent aussi précisément prendre leur destin en main pour faire changer la politique, hein, et faire en sorte que le pacte républicain il soit aussi redessiné en fonction des besoins des femmes, non pas par essence, mais besoins des femmes qui n'ont pas été jusque-là assouvis. Et là, j'ai en tête notamment tout ce qui est mode de garde des jeunes enfants, hein. Non pas que les jeunes enfants, la garde ressortit spécialement aux femmes, mais compte tenu de la pénurie des politiques publiques en la matière, eh bien, c'est sur les femmes que ces tâches sont dévolues. Et évidemment, ce problème fait que la parité, je dirais, en amont des professions et en amont de la politique n'est pas résolue, et qu'évidemment, il faut avoir suffisamment de force, de courage pour manier de front une sphère privée et une sphère professionnelle et politique qui complique singulièrement les tâches pour les femmes.
Et alors juste en prolongement, je sais bien que j'ai dit que c'est la dernière question, mais elle me démange. Est-ce que, par exemple, on a vu que Martine Aubry utilisait beaucoup cet argument, « je suis une femme, votée pour moi », est-ce que vous pensez que ça peut marcher? Est-ce que ça peut parler aux femmes?
Écoutez, Ségolène Royal avait beaucoup usé de cet argument. On a vu que quand même il a fait long feu, tel qu'il est énoncé de façon aussi, je dirais, pauvre, hein, voilà. Et moi, je pense qu'il faudrait davantage axer la campagne sur le fait de dire je suis une femme, je comprends les problèmes des femmes et je comprends les inégalités tout à fait scandaleuses qui perdurent entre hommes et femmes et qui sont préjudiciables non seulement aux femmes, mais je dirais à l'équilibre de la société tout entière. Hein. Et je pense que formulé sous cette forme-là, l'argument aurait beaucoup plus de portée.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Et je vous en prie, merci à vous.